Nous célébrons ces jours-ci le 11 novembre, un jour de commémoration de la victoire et de la paix mise en place il y a 100 ans, au lendemain de la Première Guerre mondiale. C'est pour nous l'occasion d'interroger les pratiques mémorielles de notre société. Le devoir de mémoire envers les soldats morts pour la France il y a un siècle a-t-il encore un sens aujourd'hui? Comment le mettre en pratique et par quel rituel? Quelles valeurs peut-on transmettre aux jeunes générations? Toutes ces questions sont portées au quotidien par l'association Le Souvenir Français et dont le contrôleur général des armées, M. Barcellini, est le président. Bonjour Général.
Bonjour.
Tout au long de l'année, vous participez à de nombreuses cérémonies. Pour vous, quelle est la particularité de celle du 11 novembre?
Alors, le 11 novembre est vraiment la journée de la mémoire combattante. C'est la journée qui a rassemblé l'ensemble des Français au moment où elle a été créée. Et c'est toujours la journée qui rassemble l'ensemble des Français. C'est la seule journée que l'on retrouve dans toutes les communes de France. Par rapport à toutes les journées commémoratives, elles sont horriblement nombreuses. Toutes les journées commémoratives nationales, seules, le 11 novembre aujourd'hui, est en capacité de rassembler les communes de France, c'est-à-dire les 34 000 communes, il y a une cérémonie du 11 novembre. C'est ce qui est la grande particularité du 11 novembre, qui est quelque part l'équivalent du 14 juillet. Le 14 juillet, c'est la journée de la mémoire historique française, dans sa globalité, la mémoire républicaine. Le 11 novembre, c'est la mémoire combattante de la France et c'est ce qui fait la particularité et la force du 11 novembre.
La Première Guerre mondiale devient tout de même de plus en plus lointaine. Les derniers poilus sont morts depuis longtemps et pourtant tous les événements du centenaire ont eu un grand retentissement auprès de la population. Est-ce que cela vous a surpris?
Alors, ce centenaire, je vais y aller un peu doucement, pose problème. Pourquoi ce centenaire pose problème? Parce que beaucoup l'ont vécu comme le dernier moment pour parler de 14-18. En clair, le centenaire et ensuite on ferme. Comme il y a eu de nombreux centenaires en France, après on ferme quelque part. Les centenaires conclusions ou les centenaires fermetures sont souvent forts en France pour la vie commémorative. Moi, je n'ai jamais conçu ce centenaire comme un centenaire fermeture. Alors, ce centenaire a été excessivement fort. Il a été fort tout simplement parce que 14-18 est la dernière grande page de l'histoire partagée par la totalité d'une population, ce qui n'est pas le cas de 39-45. 39-45 a plutôt été un moment de division des Français. Donc le 8 mai a toujours eu des problèmes d'adaptation comme journée commémorative. Le 11 novembre, lui, et l'ensemble de la mémoire de la guerre de 14-18 est un moment fondateur de la nation. C'est un moment de rassemblement de la nation. Donc, ce centenaire a été un grand moment de rassemblement de la nation. Ça a été un grand moment de... Moi, je disais toujours, le centenaire, on pourrait le qualifier d'une seule phrase, à la recherche du grand-père qu'on n'a jamais connu, en clair. Ça a été un grand moment de généalogie familiale. C'est quelque chose de fort. Alors, la question qui est posée aujourd'hui, c'est, le centenaire s'est terminé, que faire de 14-18 aujourd'hui? Bon, d'où... les questions fondamentales de ce que devient la vie commémorative et comment va-t-on se servir de cette vie commémorative pour continuer à enraciner, sauvegarder cette mémoire nationale qui est une mémoire d'unité nationale.
Quelles sont les lignes directrices de votre association pour sauvegarder cette mémoire nationale que vous évoquez?
Alors, moi j'ai plusieurs lignes directrices au Souvenir Français. La première dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est ce qui est apparu pendant ce centenaire. Ce qui est apparu pendant ce centenaire, c'est qui sont aujourd'hui les grands acteurs de la vie commémorative. On a vu que, à côté de l'État, qui a toujours été un acteur collectif et national, c'est lui qui crée la journée du 11 novembre en 1922. On a vu apparaître les collectivités territoriales, bien sûr les communes, mais aussi les départements et les régions. Or, la montée en flèche des collectivités territoriales comme acteurs des politiques de mémoire rend concurrentielle la mémoire. C'est-à-dire qu'en clair, le département de la Meuse se bat contre le département de la Somme, chacun voulant attirer le maximum de tourisme, chacun voulant faire le plus beau musée, chacun voulant tous les jours faire une initiative. C'est notre première réflexion à avoir. Je crois que la mémoire de 14-18 doit continuer à être une mémoire globalisante, unifiante. Et je défends, au Souvenir Français, très fortement le projet d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO des principaux sites de mémoire de la Grande Guerre en France, en Belgique et pourquoi pas sur le reste du front. Je crois qu'aujourd'hui, seule, cette inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO permettra de limiter les concurrences de terrain. Car ça, c'est déjà une première importance qu'on retrouvera pour 39-45. Hein. La Normandie, le Vercors, les Glières, mais ça, c'est demain. On va s'intéresser qu'à 14-18. Donc, je crois que notre première réflexion, c'est regarder ce que sont devenus les acteurs collectifs de la mémoire. Et pour la première fois, on doit dire que l'État n'est pas seul. Et face à ces acteurs collectifs de la mémoire nouveaux, avoir une politique sur ces acteurs collectifs de la mémoire. La deuxième réflexion, c'est qui sont les acteurs de la société civile ? Les acteurs de la société civile qui sont nés de 14-18, ce sont les anciens combattants. On n'imagine pas ce qu'a été la France des anciens combattants. Vous imaginez qu'en 1939, la moitié des électeurs français étaient anciens combattants. Vous imaginez, les femmes ne votaient pas. Hein. La moitié des électeurs français étaient anciens combattants. En 1960, il y avait 8 millions d'anciens combattants en France, si vous ajoutiez 14-18, 39-45 et l'Algérie et l'Indochine. Et le poids des associations d'anciens combattants dans notre pays était phénoménal. Ce sont les associations d'anciens combattants qui ont porté et enraciné la mémoire de la Grande Guerre, comme ils ont porté et enraciné la mémoire de 39-45 et aujourd'hui de l'Algérie, voire des OPEX aujourd'hui. Le problème, c'est que la démographie est là. La génération 14-18 a totalement disparu. La génération 39-45 est en train de totalement disparaître. Et la génération de la guerre d'Algérie, ben, les plus jeunes, ils ont entre 80 et 82 ans. Donc, nous aurons dans les 5 ans qui viennent une transformation totale des acteurs civils de la politique de mémoire. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il y a deux positions. Soit on dit, eh ben, on va recréer des acteurs civils. Alors là, vous allez à un émiettement extraordinaire de la mémoire. Il y aura l'association de Gaulle, à côté on aura l'association Verdun, à côté on aura l'association du génocide arménien, ensuite on aura l'association de la Shoah, on aura l'association des tirailleurs sénégalais, et on va à un émiettement mémoriel. Donc le problème qui est posé, c'est qui sont les acteurs civils demain de la mémoire ? Alors, bien évidemment, je défends l'idée d'un souvenir français large, d'une association ouverte à l'ensemble de la société civile, d'une association qui aurait une vision large de la politique de mémoire. La mémoire, elle est nationale.
Donc, dans ce cas-là, ce qui serait intéressant, c'est d'intéresser aussi les nouvelles générations, comme la mienne, qui n'a pas forcément l'idée de participer, par exemple, aux cérémonies qui ont lieu dans les villages. Et est-ce que vous pouvez nous dire concrètement qu'est-ce qui s'y passe et qu'est-ce que vous pourriez me dire pour me donner envie d'y participer ?
Alors, vous avez absolument raison sur la question de la transmission, puisque c'est vraiment fondamentalement le problème de la transmission. Car la transmission, aujourd'hui, n'est plus ce qu'elle était. C'est-à-dire que pendant très longtemps, pendant des générations, on ne s'est pas intéressé à la transmission dans le milieu scolaire. Pourquoi ? Parce que la transmission se faisait naturellement dans les familles. Le grand-père qui avait fait 14-18, il n'en parlait jamais, mais le petit enfant le savait. Le père qui avait fait 39-40 et qui avait peut-être fait de la résistance, il en parlait rarement, mais la famille le savait. Aujourd'hui, nous avons un problème de transmission, d'une part par l'éloignement des générations et par le fait qu'on en parle moins. On en parle moins dans les familles. Alors, que doit-on faire ? C'est vraiment le problème de fond. Alors, le souvenir français, on a des slogans. On en a un, par exemple, qui dit « Aucun élève ne doit quitter sa scolarité sans avoir participé au moins à une cérémonie patriotique. » Je ne suis pas un fanatique de la cérémonie. Je ne suis pas un fanatique du dépôt de gerbes tout azimut. Par contre, je crois fondamentalement qu'un élève doit faire au moins une fois dans son temps scolaire se rassembler autour d'un monument aux morts, partager avec les autres ce moment de réflexion, de moment de recueillement, quelque part, enfin ce moment simplement d'histoire. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que les guerres ne sont pas enseignées, si elles sont enseignées. Ceci étant dit, il y a quand même déjà un léger problème sur l'enseignement. L'enseignement, j'allais dire, il évolue en fonction de ce qu'est l'opinion publique générale, de ce qu'est les intérêts de l'opinion publique. Et on voit bien qu'on n'enseigne plus 14-18 aujourd'hui comme on l'enseignait il y a 50 ans. On n'enseigne plus 39-45 comme on l'enseignait il y a 20 ans. Quant à l'Algérie, on l'enseigne comme l'horrible phase coloniale de la France. Donc, on voit bien que les évolutions de l'enseignement, là aussi, doivent être réfléchies collectivement. Car si nous voulons que la mémoire soit partagée, il faut déjà qu'on partage ce qui est enseigné. Bien, ça, c'est le premier problème. Le second problème, c'est qu'il faut qu'on épaule les enseignants. Alors, épauler les enseignants pour que la mémoire reste fondamentale dans la société, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, encore un slogan, aucun élève ne doit quitter sa scolarité sans être allé visiter au moins un lieu de mémoire en France. C'est quand même fou ce qui se passe. Vous imaginez, plus que 60% des élèves, quand ils quittent leur scolarité, n'ont jamais vu un lieu de mémoire. Ils ne sont pas allés à Auschwitz, ils ne sont pas allés aux Glières, ils ne sont pas allés au Vercors, ils ne sont pas allés sur les plages du débarquement. Ça, c'est une obligation. Ça s'appelle des voyages scolaires. Ça s'appelle des voyages scolaires. Le Souvenir français met 1 million d'euros par an pour épauler les voyages scolaires. C'est notre principale dépense, parce que je crois fondamentalement que c'est là qu'il faut jouer. Permettre aux jeunes d'avoir visité Verdun et de s'en souvenir toute leur vie. Ça, c'est le rôle. La deuxième chose que nous faisons, c'est lié à ce que je vous disais sur le problème des associations d'anciens combattants. Nous récupérons les drapeaux des associations dissoutes d'anciens combattants et nous les remettons dans les collèges et les lycées. C'est des moments exceptionnels. Et en fait, le drapeau prend une seconde vie. Je dis bien seconde parce que je pense qu'il n'y en aura pas de deuxième ou de troisième. C'est une seconde vie. Et le drapeau devient le drapeau porté par un établissement scolaire le 8 mai et le 11 novembre. On en a fait un peu plus de 300 aujourd'hui. Les drapeaux ont déjà été déposés. Alors, c'est une petite chose, mais qui, à terme, peut être quelque chose de fort. C'est-à-dire que, comme vous, c'est un peu la question qu'on se pose, je crois qu'aujourd'hui, c'est aux jeunes de reprendre le relais, mais peut-être avec des moyens différents, peut-être avec des instruments différents, peut-être avec une refonte de la vie commémorative qui ne correspondra sans doute plus à ce qu'est la demande aujourd'hui des jeunes.
Et donc, vous parliez des drapeaux. Et comment est-ce que vous leur expliquez les autres rituels comme la minute de silence, les couronnes de fleurs ou la sonnerie aux morts?
Alors, les drapeaux, c'est passionnant parce que quand vous mettez un drapeau dans un établissement scolaire, il est à la fois un drapeau d'anciens combattants, mais il est aussi un drapeau de la République française. Donc ce drapeau va rentrer comme un moyen d'explication du civisme, et pas seulement dans l'enseignement de la mémoire. C'est relativement simple à apprendre. Le reste, c'est vrai. Moi, je suis de ceux qui disent « le reste, ça prend tout seul », mais c'est horrible, je suis le seul à le penser. Quand vous emmenez une classe ou deux classes à l'Arc de Triomphe pour raviver la flamme, est-ce qu'on a obligation d'expliquer aux élèves deux jours avant, leur disant il y aura une minute de silence? Mais ils le voient, ils le vivent. Vivre les moments symboliques, pour moi, c'est beaucoup plus fort que les apprendre. C'est-à-dire que vous êtes devant un monument aux morts, on vous dit minute de silence, les drapeaux s'abaissent. Il n'y a peut-être pas besoin de l'avoir expliqué deux jours avant et en faisant répéter les scolaires. C'est pour ça que je dis, chaque scolaire doit être allé au moins une fois dans une cérémonie. Je crois beaucoup à l'apprentissage par le vécu, plutôt que l'apprentissage par le scolaire. Alors vous avez raison, hein. Ceci étant dit, il y a aujourd'hui des explications à donner. Comment on a écrit les listes sur les monuments morts, la symbolique des différents monuments morts. Ça peut s'expliquer en cours. Ça, je crois que avant ça c'était naturel. Il y a 30 ans, à quoi servait d'expliquer un monument aux morts? Tout le monde passait devant, tout le monde comprenait ce qu'était un monument aux morts. Aujourd'hui, oui, il y a sans doute à mettre dans l'enseignement cet aspect, mais je ne pense pas à la minute de silence. La minute de silence se vit, le monument aux morts s'explique.
On va revenir sur votre association qui, elle, est bien plus ancienne que la guerre de 14-18. Elle est née à la fin de la guerre de 1870. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu dans quel contexte?
Alors, le Souvenir français est aujourd'hui, je suis très fier, la principale association mémorielle française. Aujourd'hui, nous avons 90 000 adhérents payants. Une association qui a 90 000 adhérents payants aujourd'hui, regardez les partis politiques, j'ai fermé ma parenthèse, c'est du lourd. C'est du lourd. Bon. Et d'où venons-nous ? Nous avons été créés en 1887. Et en fait, le Souvenir français est créé à la fois par des personnes, ce qui est évident, et ce qui est intéressant, par une majorité à l'origine d'Alsaciens mosellans installés à Paris, c'est-à-dire ces fameux Alsaciens mosellans qui ont quitté l'Alsace-Moselle annexée par l'Allemagne, et par la volonté du gouvernement. C'est pas rien, le premier président national du Souvenir français, mon grand ancêtre, avait été ministre de la guerre du gouvernement Jules Ferry. Vous savez, quand on a un ancien ministre de la guerre, président d'une association, c'est que le gouvernement est derrière. En fait, le Souvenir français a été créé par la volonté du gouvernement républicain. Pourquoi ? Parce que c'est joué à partir de 1880 le problème de l'ancrage de la mémoire de 1870. La République s'est trouvée confrontée à une défaite, 1870-1871. Puis à Paris, à la Commune. Face à cette défaite, la République a élaboré un concept de défaite victorieuse. Et en définitive, 1870 est devenu le moment de rassemblement pour les républicains des Français pour l'après. Et le Souvenir français a été l'association chargée de porter cette défaite victorieuse. En 1913, le Souvenir français avait fait déjà 2000 monuments, stèles, plaques sur 1870. Nous étions en 1913 la très très grande association mémorielle, bien plus qu'aujourd'hui, la très grande association mémorielle qui, j'allais dire, collée à la République, portait cette mémoire.
Avant 1870, la fin de la guerre, elle était du coup plutôt célébrée par des actes de triomphe. Et après cette date, donc vous disiez un peu, on voit se multiplier des monuments aux morts. Qu'est-ce qui a amené ce changement ?
Alors, là, vous touchez un sujet passionnant. C'est comment on passe d'une mémoire, de chef, à une mémoire de soldat. On va essayer de résumer simplement par ces deux mots. Tout à fait intéressant. Jusqu'en 1850 environ, en France, dans le monde, on ne rend hommage qu'aux chefs. Exemple, l'arc de triomphe de l'étoile. Il n'y a que les généraux qui sont marqués. On aura plusieurs raisons. La première est assez horrible. C'est que sur les champs de bataille, il faut enterrer très vite les soldats. Et donc le soldat, on n'y accorde pas beaucoup d'importance. Il n'y a par exemple, personne s'en offusque, aucun cimetière de la guerre de Napoléon Ier. Ça n'existe pas, les cimetières. Il y a des tombes de généraux. Le soldat finit dans une fosse commune jusque dans les années 1850. Ce n'est pas la seule raison. À partir des années 1850 environ, on a la montée de la démocratie. Or, la démocratie, c'est sur le peuple qu'elle joue. À partir du moment où l'homme, j'ose pas dire la femme encore, mais l'homme va commencer à être celui qui vote, l'individualisation de l'individu devient forte. Et la tombe du soldat devient importante. Les premières tombes de soldats en France, elles sont liées à la période de Napoléon III. Et puis 1870, nous n'avons pas encore vraiment la tombe du soldat, on a encore des ossuaires collectifs. Et c'est en 14-18 que tout se joue. 1914, août 1914, la France part joyeusement au combat. C'est ce qu'on dit. Hein. Ce n'est pas totalement vrai d'après les thèses d'historiens aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas prévu le nombre de morts. Et en août 14, on a des journées où il y a 23 000 morts. On n'a rien prévu du tout. Et donc, on fait des fosses communes. Et là, la société ne l'accepte plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait en catastrophe ? On fait une loi en 1915 qui est essentielle, qui est la loi de reconnaissance du mort pour la France. On dit, ils sont morts pour la France. C'est pas rien de mourir pour la France. On n'y avait pas pensé avant, hein, mourir pour la France. Et donc, à partir de là, il y a reconnaissance du corps du soldat ou de son nom, donc les monuments aux morts avec les noms, ou les tombes lorsqu'on a pu garder. Et je crois que c'est là l'immense tournant de la mémoire qui n'a jamais été remis en cause. Ce concept de mort pour la France est le concept central des politiques mémorielles en France.
Entre 1870 et maintenant, comment les missions de votre association ont-elles évolué ? Parce que vous avez parlé un peu des plaques commémoratives, et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de plus ?
C'est assez central parce qu'on va parler de toute l'histoire avec cela. 1870-1913, on est tout seul. C'était le temps du souvenir français. C'était le temps du souvenir français, et le souvenir français fait essentiellement les tombes. Tombes, monuments, stèles, cérémonies. Pas de problème de transmission à cette époque, ça se fait naturellement. 14-18, le souvenir français invente la cocarde, bleu, blanc, rouge qu'on met sur les tombes. On est encore très fort avec deux inventions extraordinaires entre 14-18, la cocarde et le soldat inconnu. Le soldat inconnu sous l'arc de triomphe, c'est une invention du souvenir français, c'est une proposition du souvenir français d'un homme qui s'appelle Francis Simon, qui est le président du souvenir français de Rennes, qui fait un grand discours en 1916. On a le discours, c'est pour ça qu'on sait que c'est nous. Et il dit, il faut que le gouvernement transfère un soldat inconnu. Je ne vous cache pas qu'il avait proposé au Panthéon, hein, pas à l'Arc de Triomphe. C'est une polémique qui fait qu'il est arrivé en 1920 à l'Arc de Triomphe. Le problème qui se pose, c'est qu'à partir de 1918, alors ce n'est pas un problème, c'est une constatation, se créent massivement les associations d'anciens combattants. Et ce sont les associations d'anciens combattants qui vont prendre le relais de la vie commémorative, aux côtés des communes qui font les monuments aux morts, aux côtés de l'État qui font les grands cimetières. Le souvenir français devient partenaire et plus seulement le moteur. Aujourd'hui, c'est le cas. Nous finissons d'être le partenaire pour revenir bientôt le moteur, puisque les acteurs changent. Mais pour cela, il faut être capable d'être puissance de changement. Et c'est ce que le souvenir français doit être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se joue, c'est quelle mémoire voulons-nous pour les 10 à 20 ans qui viennent ? Comment vont évoluer les politiques de mémoire ? Comment aujourd'hui aller dans les écoles pour porter et réfléchir ensemble sur les politiques de mémoire ? Comment faire des universitaires historiens également des quand il le faut, des acteurs de mémoire, pas toujours, quand il le faut. Ces questions sont, à mes yeux, fortes, centrales, car le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il ne peut pas y avoir dans une nation démocratique une politique de mémoire qui n'est pas portée aussi par la société civile. Et le souvenir français se positionne comme la société civile.
Quelles actions concrètes menez-vous avec l'association afin de les préserver ? Vous avez parlé notamment de tout ce qui était enseignement. Mmh. Est-ce qu'il y en a d'autres ?
Alors, si vous voulez, moi je résume toujours les actions du souvenir français avec trois mots. Sauvegarder, commémorer, transmettre. Sauvegarder, c'est aujourd'hui sauver les tombes. C'est un moment fort de la vie mémorielle française, c'est la disparition des tombes familiales de mort pour la France. Alors c'est très simple à comprendre. Hein. Grosso modo, 500 000 familles ont récupéré les corps de combattants, 300 000 en 14-18, 39-45, Algérie, Indochine. Donc on a restitué les corps des combattants à leurs familles qui l'avaient demandé. Ces corps sont allés dans des tombes familiales, Dupont, Durand, etc., etc. Les tombes familiales vivent le temps des concessions. 40 ans, 50 ans, perpétuel qui n'existe plus. Et on s'aperçoit, en particulier avec le centenaire, qu'ont disparu des milliers de tombes de combattants. Or, nous estimons au souvenir français que c'est une erreur. Moi, j'appelle ça une faute mémorielle. En clair, je crois que ce qui se joue aujourd'hui dans nos communes, c'est qu'il faudrait que chaque commune arrive à travailler avec ses scolaires un chemin de mémoire qui passe devant les plaques de rue. Ici, une plaque de rue de Lattre. Ici, une plaque de rue Dupont combattant. Qui passe devant les stèles, le monument aux morts, mais aussi les tombes de mort pour la France dans le cimetière. Donc, un des premiers axes du souvenir français aujourd'hui, c'est sauver les tombes des combattants de mort pour la France. lié à ces sauvegardes, c'est s'intéresser de très près à l'avenir des stèles qui ont été créées par des associations d'anciens combattants. Les associations disparaissant, souvent les stèles disparaissent. Et alors à Paris, c'est bien pire. C'est le problème des plaques sur les immeubles. Ici, a été fusillé X ou Y. Ici, vivait Z, etc. On refait... Alors, généralement, ces plaques ont été mises sans demander à la copropriété. En 1945 ou en 1920, on ne s'embarrassait pas des copropriétés. Et lorsqu'on refait l'immeuble, eh ben, la plaque n'est pas remise. Nous nous battons pour conserver ces plaques. Donc, sauvegarde. Voilà deux exemples de sauvegarde. Commémorer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne crois pas à la multitude, à la multiplication des journées commémoratives nationales. Par contre, je crois qu'il faut qu'on fasse très attention pour conserver les journées d'histoire locale. Dans telle commune, on commémore un maquis. Dans telle autre commune, une rafle. Dans telle autre commune, des combattants de 14-18. Je crois qu'il faut conserver cette mémoire-là et qu'il faut la conserver en cérémonie. Donc ça, c'est le deuxième axe. Deuxième axe que nous faisons. Enfin, le troisième axe, c'est la transmission. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le souvenir français s'est engagé, mais fortement, fortement, sur les voyages scolaires, le dépôt de drapeaux dans les établissements scolaires, le soutien à toutes les initiatives des enseignants. C'est-à-dire que on n'a pas... c'est pas à nous de remplacer les enseignants. Nous, on est à l'écoute des enseignants et on doit leur apporter notre aide, si aide ils ont besoin, quelquefois en leur expliquant qu'ils doivent en avoir besoin. Voilà ce que je peux vous dire sur le souvenir français aujourd'hui. Une association qui s'implante également à l'étranger, beaucoup, car là aussi, c'est un moment, un tournant de la société française. Il n'y a jamais tant eu de Français à l'étranger, 3 500 000 Français à l'étranger. Il n'y a jamais eu si peu d'associations pour les encadrer. Il n'y a jamais eu si peu de personnel dans nos diplomatiques. Il n'y a jamais eu si peu de militaires dans nos ambassades. Et je crois que fondamentalement, le souvenir français doit permettre à nos expatriés de continuer à se sentir français.
Est-ce qu'il y a d'autres associations qui contribuent à vos objectifs de conservation, d'entretien et de transmission de cette mémoire ?
Merci de votre question, parce que sinon on va penser que je suis un impérialiste. Vous voyez ? Merci, merci. Oui, si le souvenir français est tout seul, c'est foutu. J'emploie vraiment cette expression triviale. C'est foutu. Donc oui, ce qui doit se passer dans ce pays, c'est l'émergence d'associations mémorielles. Je crois à l'émergence d'associations mémorielles. Je vous donne quelques exemples. Les généalogistes aujourd'hui sont bien des acteurs de mémoire. Vous imaginez ce que sont les associations de généalogistes. Il y a 500 000 adhérents aux associations de généalogistes. Les associations de reconstituteurs, ceux qui, le dimanche, sont en jeep ou s'habillent en poilu de 14-18, ce sont bien des associations mémorielles. Ces jeunes ou moins jeunes qui sont dans ces associations rencontrent l'histoire et la mémoire à travers leur passion. Voilà deux exemples d'associations qui sont des associations mémorielles. Dans de très nombreuses communes, il y a des petites associations historiques qui commencent par l'histoire de l'Église et qui finissent sur l'histoire du monument aux morts. Ce sont bien des associations mémorielles. Le souvenir français ne peut pas être seul. Je crois fondamentalement à la création de réseaux d'associations mémorielles dans notre pays, chacun étant capable d'apporter une pierre à cette volonté de mémoire, mais avec une réflexion collective pour garder une vision nationale de notre mémoire.
Et donc, il y a le travail des historiens et celui de la mémoire. Et qu'est-ce que vous pensez apporter en plus du travail d'historien ?
Vous finissez par une belle question. La différence entre histoire et mémoire est fondamentale. J'ai enseigné à Sciences Po pendant 12 ans les politiques de mémoire. Et je commençais toujours mon cours en disant, dans le terme de politique de mémoire, le mot politique est plus fort que le mot mémoire. Qu'est-ce que la mémoire par rapport à l'histoire ? Il faut qu'on se mette d'accord sur les deux termes et après je vous parlerai des historiens. La mémoire, c'est l'histoire triée au temps présent qui dépend de celui qui trie. En clair, la mémoire, c'est un tri de l'histoire. Et ce tri de l'histoire dépend du temps où on trie. On ne trie pas de la même manière en 2022 et en 1960. Elle dépend de celui qui trie. Voilà ce que c'est que la mémoire. La mémoire, ce n'est pas l'histoire. La mémoire, c'est un petit morceau de l'histoire conditionné par le temps et celui qui trie. Voilà. Donc c'est une différence fondamentale. Les historiens ne sont pas des acteurs de mémoire. Les historiens sont des historiens. L'historien, il a une vision globale de l'histoire. Il n'a pas un tri à faire. S'il commence à faire un tri, c'est que c'est un mauvais historien. Voilà. Donc, je fais très attention. Je crois fondamentalement au rôle des historiens. Puisque les historiens, ils vont apporter le substrat de la mémoire. Mais ce n'est pas à eux d'écrire la mémoire. Parce que si eux, ils écrivent la mémoire, on se retrouve dans un pays totalitaire. Voilà, c'est tout simple. Si l'historien devient l'acteur de mémoire, ce n'est plus la démocratie. L'acteur de mémoire, c'est une composition subtile entre les acteurs politiques, l'État, les collectivités publiques et la société civile. Si vous enlevez la société civile, vous finissez en Russie. Donc c'est essentiel. Les politiques de mémoire, c'est une composition délicate, subtile, entre le pouvoir politique et la société civile. L'historien, lui, il n'est pas acteur de mémoire, il est acteur de l'histoire. Et ça, c'est difficile à faire comprendre aujourd'hui, en particulier quand on crée des commissions d'historiens pour faire la mémoire. Moi, je suis toujours très, 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 très réticent sur ces questions-là, parce que je pense qu'il y a là un problème fondamental. Voilà, je tenais à vous répondre cela à votre question.
Merci beaucoup. Et vous, comment est-ce que vous avez découvert cette association, Le Souvenir Français ?
Alors, ma carrière est un peu particulière. J'ai fait toute ma carrière quasiment au ministère des Anciens Combattants. J'ai créé au ministère des Anciens Combattants un service qui est aujourd'hui la direction de la mémoire du patrimoine. J'ai été directeur de cabinet de 3 ministres. Donc j'ai fait toute ma carrière liée au monde ancien combattant et au monde mémoriel. Et c'est là que j'ai découvert ces problèmes, cette évolution entre le souvenir et la mémoire. Parce que ça, je ne vous en ai pas parlé. Pour moi, il y a une différence fondamentale entre le souvenir et la mémoire. Comment on est passé de ce concept de souvenir à ce concept de mémoire. Comment la mémoire occupe aujourd'hui tout le terrain de l'opinion publique, ce qui n'était pas le cas il y a encore 20 ans. Et arrivant, comme on dit, dans le cadre de réserve, c'est comme ça qu'on dit pour les généraux, dans le cadre de réserve, c'est poser la question de comment prolonger ce que je savais faire. Et donc, il se trouve que Le Souvenir Français était une grande association qui était en forte interrogation. Quand je suis arrivé au Souvenir Français, nous étions confrontés à l'écroulement de nos adhérents parce que la génération d'Algérie était en train de disparaître et celle de 39-45 encore plus. Donc, face à cette question du renouvellement associatif, puisque c'est bien de cela dont il s'agissait, j'ai pris la présidence de cette association pour essayer de voir comment elle avait toute sa place dans la France du 21e siècle. Parce que c'est vraiment de cela dont il s'agit. Quelle mémoire voulons-nous pour la France du 21e siècle ? Et Le Souvenir Français a la prétention, a la forte prétention de vouloir y jouer un rôle.
Et donc justement, pour finir, à l'heure où les conflits ne concernent plus forcément toute la population, comment sont commémorées et sera transmise la mémoire de ces militaires morts au combat ?
Ouais, la mémoire des OPEX. Je vais faire une conférence dans peu de temps là-dessus. La mémoire des OPEX. Alors, c'est compliqué. Parce que jusqu'à présent, la seule invention qu'on a faite, c'est de faire la même chose que ce qu'on a fait pour les anciens combattants d'avant. C'est assez amusant d'ailleurs. Hein ? Pas une réflexion, rien. On dit, les OPEX, c'est des anciens combattants comme hier. Et ce n'est pas vrai, ce n'est pas des anciens combattants comme hier. Ça a tellement évolué, l'armée française. Les recrutements de l'armée française ont évolué. Le concept de nos guerres ont évolué. Alors aujourd'hui, vous savez sans doute, on a commencé les OPEX, on va leur donner la carte du combattant, comme ceux de 14-18. Bon, ils ont la carte du combattant. Puis après, on leur dit, ben, vous allez rentrer dans les associations d'anciens combattants. Mais ils ne veulent pas y rentrer dans les associations d'anciens combattants. Et on voit quelque chose d'ailleurs d'intéressant. Par contre, ils rentrent dans les amicales régimentaires, comme avant 1913. Il y avait des amicales régimentaires en 1913. On voit donc que nous avons à réfléchir sur qu'est-ce que la mémoire des OPEX, ces combats de la France en opération extérieure, comment doivent-ils être portés dans la mémoire d'aujourd'hui? C'est pas trouvé. Hein. La seule chose qu'on fait, c'est exactement la même chose qu'avant, sans réfléchir. Moi, c'est bien ça mon problème. Je suis persuadé que le 21e siècle, c'est pas la copie du 19e. Le 21e siècle, ça doit être une adaptation au temps présent. Ça doit être une adaptation aux outils nouveaux. Dieu sait si c'est important, aux outils nouveaux. Une adaptation aux générations et aux demandes des générations nouvelles. Cette question pour les OPEX est posée. Ce n'est pas une affaire de dépôt de gerbes, les OPEX. C'est bien au-delà, c'est à quoi sert la France et pourquoi la France envoie-t-elle ses soldats au Tchad, au Mali, au Liban, en Afghanistan. C'est bien à coller cette mémoire des OPEX à ce qu'est la France du 21e siècle et qu'est la volonté de la place de la France dans le monde d'aujourd'hui.
Merci beaucoup, Général, pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes le président général de l'association Le Souvenir Français et que nous fêtons cette année le centenaire de la commémoration de la victoire et de la paix, dont vous pourrez retrouver un article sur le site de France Mémoire.
Merci beaucoup à vous.